Notre invité Bruno Jambard, directeur général adjoint de l'Institut OpinionWay. Vous publiez Une présidence anormale aux éditions Descartes et compagnie. Et nous accueillons Elisabeth Pinault. Bonjour, vous êtes journaliste politique à l'agence Reuters. Vous êtes présidente de l'association de la presse présidentielle et vous avez suivi différents présidents depuis Jacques Chirac. Une réaction à ce que vient de dire Frédéric Saïz?
Oui, bonjour. On voit qu'il y a encore beaucoup de pas sur la planche avant les élections européennes de mai 2019 hein, pour Emmanuel Macron. Bon, ça commence à se stabiliser en Allemagne. Je pense que ça, c'est une bonne nouvelle, mais là, tout reste à faire.
C'est-à-dire
près de 41% des Français l'année dernière, si on ajoute les voix de Marine Le Pen et de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, des eurosceptiques ont voté contre l'Europe, en quelque sorte, au premier tour de l'élection présidentielle. Et tout reste à faire. Emmanuel Macron va prononcer un discours le 17 avril à Strasbourg, au Parlement européen. On va voir ce qu'il va dire, mais ce sera une façon de lancer la campagne et beaucoup reste à faire.
Bruno Jambard, vous en pensez quoi? Parce que là aussi, on a entendu tout et son contraire. On a attribué, par exemple, la contre-performance relative du Front National au fait de vouloir abandonner l'euro. On a dit, voilà, les Français sont très attachés à l'euro. On a malgré tout dit qu'il y avait un certain nombre de partis qui étaient eurosceptiques, par exemple la France Insoumise. Que faut-il en penser?
Je ne sais pas si l'élection d'Emmanuel Macron était une exception, c'était en tout cas une parenthèse. C'est-à-dire que quand on regarde, il y a un moment qui suit à la fois le Brexit et l'élection de Trump, où on a un certain nombre de résultats électoraux qui vont à l'inverse de ce qu'on attendait les mois précédents. On peut citer les Pays-Bas, on peut citer donc la France. En Allemagne, certes, la AfD pousse, mais ne fait pas des scores non plus absolument démesurés. Et on a même eu au Royaume-Uni l'effondrement du UKIP lors des élections législatives. Donc, il y a eu comme un moment où, en tout cas, l'euroscepticisme a reculé. Et effectivement, l'élection italienne nous rappelle que, malgré tout, c'est un mouvement de fond, c'est un mouvement important. Alors en France, pour l'instant, il ne s'impose pas. Quand on regarde les indicateurs, à l'inverse de l'Italie, on a plutôt une amélioration sur le nombre de personnes qui pensent que l'Europe est une bonne chose, l'appartenance de la France à l'Europe est une bonne chose. On verra si ça durera avec Emmanuel Macron.
Frédéric Saïz.
Oui, ce qui était intéressant pendant la campagne de 2017, c'est qu'on a vu au cours de ces meetings des personnalités complètement décomplexées vis-à-vis de leur amour pour l'Europe. Et ça faisait des années que même les plus fervents pro-européens avaient tendance à mettre le drapeau dans leur poche, à se cacher un peu. On se rappelle notamment du meeting du 10 décembre d'Emmanuel Macron, le fameux Porte de Versailles, dont on a beaucoup retenu, on va dire, le dernier passage avec les cordes vocales qui avaient un peu souffert. Mais avant ça, il y avait eu un passage très très intéressant sur l'Europe, avec le fait qu'Emmanuel Macron avait fait lever la salle, avait fait brandir le drapeau aux 12 étoiles et avait dit « Moi, je suis une exception dans cette campagne. Tous les autres vous diront que l'Europe, ça n'est pas quelque chose de souhaitable ou en tout cas qu'on va très très mal. » Lui avait dit « Moi, j'assume complètement d'aller dans le sens pro-européen. »
Petit retour en arrière sur Emmanuel Macron, sur les vœux à la presse qui ont été prononcés le 3 janvier 2018. Et au début, eh bien, c'était la présidente de l'association de la presse présidentielle, autrement dit vous, Elisabeth Pinault, qui l'avait accueillie comme le veut la tradition. Et vous avez prononcé un discours qui était très drôle. Il y avait notamment ce passage-là.
Le président et la presse, le pouvoir et le contre-pouvoir. Vaste programme. Examiner, observer, décrire, écrire, dire, nommer les choses, les mettre en perspective, c'est notre métier, notre quotidien, notre rôle. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'avoir l'accès le plus large à vos actions, à votre parole, à votre pensée, aussi complexe soit-elle.
Alors vous l'aviez un peu mis en boîte, Emmanuel Macron, gentiment, il souriait, parfois il souriait un peu jaune, Elisabeth Pinault, mais en substance, vous disiez que c'était compliqué de faire votre métier de journaliste pour la presse présidentielle sous sa présidence. Les choses se sont-elles améliorées?
Pas vraiment, il y a toujours cette distance que le président a instaurée, il a clairement établi une rupture avec la présidence de François Hollande, qui était une présidence très ouverte, avec un président qui parlait à la presse presque tous les jours, en déplacement, hors déplacement, même en secret, on l'a su plus tard, pour écrire des livres. Bon, Emmanuel Macron, conseiller à l'Élysée puis ministre de l'économie, n'a rien manqué de tout ça. Il a vu ce qu'il fallait ne pas faire. Je pense qu'il l'a analysé de la sorte. Et depuis qu'il est élu, il y a une vraie distance avec la presse que le président a instaurée, relative tout de même, hein, parce que bon, ça n'empêche pas d'aller sur TF1, sur France 2, de donner parfois des interviews. Mais au quotidien, c'est un président qui parle peu à la presse.
Et là, vous lui parlez souvent, par exemple?
On lui parle peu. Là où où François Hollande disait « je ne fais pas de différence entre les Français et les journalistes », Emmanuel Macron dit « je ne souhaite pas parler trop souvent aux journalistes, ce que je veux c'est parler aux Français ». Donc il fait une distinction. Et lors des vœux à la presse, j'ai bien voulu marquer que les journalistes sont des Français et nous sommes les porte-voix des Français. Si les Français ont des questions, nous sommes là pour poser les questions que les Français se posent. Et voilà, et les journalistes ce ne sont pas seulement quelques commentaires sur des chaînes d'infos comme, qui ont l'air d'agacer l'Élysée. Ce sont 35 000 journalistes qui travaillent en France et qui sont des acteurs majeurs de la démocratie, un contre-pouvoir face au pouvoir.
Mais alors, on a entendu parler d'une dégradation de vos conditions de travail, je le dis en souriant. L'idée était de sortir la salle de presse de l'Élysée, autrement dit, de marquer géographiquement cette distance.
Exactement, c'est un grand symbole. Alors, c'est sur le métier, disons, et ça, il n'y a pas de matière à discussion.
Hein. D'accord, donc vous allez être dehors.
Protesté. Oui, assez clairement, on va être déplacé du cœur du pouvoir, c'est-à-dire une salle qui donne, pour expliquer, une salle qui donne sur la cour d'honneur, c'est-à-dire où passent les invités de marque, enfin les invités qui ont rendez-vous avec le président. Et cette salle va être déplacée rue de l'Élysée, c'est-à-dire à 100 mètres, on ne verra plus rien de ce qui se passe dans le bâtiment principal au cœur du pouvoir, ce qui est un symbole fort. Ça veut dire que les journalistes à l'Élysée, on les sonnera pour quand on aura besoin d'eux,
de la com.
Et puis on leur dira de repartir quand il sera l'heure de repartir.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on considère que vous devez être, que nous devons aussi, hein, parce que je m'inclus dans le mouvement bien sûr, que nous devons être le relais de la communication présidentielle, gouvernementale.
C'est peut-être vu comme ça, mais enfin quand on est journaliste, on a pour devoir premier de faire la différence entre l'information et la communication. Donc c'est un défi lancé à la presse. Après tout, pourquoi pas cette bonne guerre? Voilà, ça nous oblige à nous remettre en question dans une période compliquée pour la presse. Hein. D'ailleurs, je pense que le pouvoir en place en profite aussi un peu de cette espèce de flottement actuellement avec la frénésie des réseaux sociaux, avec les difficultés économiques de la presse. C'est-à-dire que la presse est en en pleine transformation, être journaliste, c'est un métier en pleine mutation. Donc,
mais vous pensez que ça fait plutôt plaisir au pouvoir ?
Pas forcément, mais en tout cas, le pouvoir est parfaitement conscient du pouvoir de la communication. Mmh. Emmanuel Macron est un homme de son temps, un homme de l'image, un homme des réseaux sociaux. Autour de lui, il y a beaucoup de communicants. Et maintenant, aux journalistes de faire le travail, c'est-à-dire, si on leur interdit la porte, de passer par la fenêtre, d'être sur le fond, de lire les projets de loi au détail près, de regarder les promesses non tenues, voilà, de faire leur travail avec beaucoup d'acuité et sans avoir forcément accès à la parole du président ou de ses conseillers. Et je le répète, c'est de bonne guerre.
Est-ce que cela signifie qu'Emmanuel Macron pense que sa popularité dépend d'une maîtrise de la communication, communication que François Hollande ne maîtrisait pas, puisque comme vous le rappelez, jusqu'à l'estocade finale avec ce livre de Davet et l'homme, un président ne devrait pas dire ça, on s'est rendu compte que finalement, il parlait peut-être de trop.
En tout cas, Emmanuel Macron veut instaurer cette distance. Il a pris la distance et la hauteur nécessaire à la fonction. Et les Français lui en savent gré. Ça, c'est sûr que il a pris les habits du pouvoir, il a pris les habits de la fonction présidentielle, alors que Hollande avait sa cravate de travers. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose que les Français apprécient. Et Emmanuel Macron s'y tient. Et il a eu raison, d'ailleurs, de prendre cette hauteur.
Frédéric Seize.
Elisabeth Pinault parlait à juste titre des réseaux sociaux. C'est aussi quelque chose sur lequel s'appuie beaucoup Emmanuel Macron pour faire sa communication et pour contourner, en un sens, les journalistes qui le suivent. François Hollande n'avait pas vraiment compris à quoi ça pouvait servir. Son équipe était certes compétente, mais par exemple, il y avait eu des faux pas. Il avait notamment fait suivre par ses équipes une visite dans une entreprise avec le logiciel Periscope qui permet de faire des vidéos en direct. Et là, on avait vu l'ensemble de la France mettre des commentaires, tous plus désobligeants les uns que les autres. Emmanuel Macron et son équipe, c'est complètement différent. Ce qu'ils font, c'est qu'ils resserrent au maximum ce qu'on appelle les poules. Là, pour le coup, ça n'est pas nouveau, mais c'est-à-dire une toute petite équipe de journalistes qui est censée prendre les images et le son et ensuite les redistribuer aux autres, ce qui permet d'avoir moins de pression médiatique et peut-être moins de questions qui sont posées au chef de l'État. Et ce qu'il fait de plus en plus aussi, c'est qu'il bannit complètement les journalistes qui prennent du son et de l'image. Pense par exemple au discours aux agriculteurs, aux jeunes agriculteurs. C'était la semaine dernière, avant le Salon de l'Agriculture. Là, pour le coup, les journalistes étaient bienvenus dans la salle des fêtes de l'Élysée. Je parle sous contrôle d'Elisabeth Pinault. Mais en revanche, interdiction d'avoir une caméra ou même un enregistreur de son pour les journalistes radio. Conséquence de ça, ça veut dire que s'il y avait eu un casse-toi pauvre con, l'équivalent de Nicolas Sarkozy, une altercation assez forte, il n'y avait qu'une seule source de vidéo qui était celle de l'Élysée, le vidéaste qui suit Emmanuel Macron en direct avec son téléphone. Et on n'aurait pas pu avoir les images, on l'aurait raconté évidemment, mais ça aurait fait beaucoup moins de déflagration médiatique.
Sur le plan de la popularité de l'exécutif, il y avait une critique qui aurait pu, qui peut-être lui a été adressée, c'était l'inexpérience de cet homme, Emmanuel Macron, qui n'avait jamais été élu et s'était présenté comme étant à son passif avant son élection. Depuis, qu'est-ce qui se passe, Bruno Jambard ?
Très clairement, Emmanuel Macron avait très bien compris les défauts de la présidence Hollande et notamment le fait que Hollande n'avait pas corrigé ses handicaps quand il est arrivé au pouvoir. Et lui, il a tout de suite vu qu'il fallait qu'il installe cette idée qu'il était à la hauteur de la fonction. Malgré son inexpérience, malgré sa jeunesse, il était capable de discuter avec les grands de ce monde. Et donc on l'a vu avec Trump, on l'a vu avec Poutine, on l'a vu aussi dans tout, je dirais, les habits régaliens. Alors c'est ces fameuses images, élitreuillés sur le sous-marin, en pompier, en aviateur, qui ont fait un peu rire, mais qui ont été décisifs pour installer, je dirais, cette capacité d'Emmanuel Macron à incarner et à exercer la fonction d'entrée. Et ce point est totalement réglé dans l'opinion publique.
C'est-à-dire ?
Aujourd'hui, les Français considèrent que Emmanuel Macron a l'expérience qu'il faut, qui convient, et est à la hauteur de la fonction, finalement, à ce que François Hollande n'a jamais réussi à gagner en 5 ans.
Oui, mais si vous regardez dans le passé, par exemple, personne ne doutait que Valéry Giscard d'Estaing était, comme vous dites, à la hauteur, mais cela s'est transformé en handicap, puisque on a dit finalement que ce bonhomme se prenait pour un monarque, et il a été moqué pour cela.
Oui, alors, le fait de corriger son handicap de départ ne signifie pas qu'on réussira sur l'exercice de la fonction pendant 5 ans.
Je parle même pas de réussite, mais le caractère supposé hautain de Valéry Giscard d'Estaing, son caractère jupitérien aujourd'hui, dirait-on, a été en quelque sorte un problème, un souci, même si celui qui lui a succédé, François Mitterrand, ne pêchait pas par modestie.
Oui, tout sera une question d'équilibre pour Emmanuel Macron. Effectivement, s'il prend trop de hauteur durant l'ensemble de son mandat, il risque effectivement de se heurter à ce sentiment de fracture entre lui et les Français. Donc c'est un équilibre qui est, pour tous les présidents, très difficile à trouver. Vous savez, c'est la grande phrase, on a le sentiment que les présidents ne s'occupent que de l'international et pas des problèmes des Français. Eh bien, c'est là où il faut trouver cet équilibre. Emmanuel Macron, on verra bien, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, mais en tout cas, il a réussi quelque chose d'important qui était vraiment de contrer cet argument d'inexpérience et d'incapacité, finalement, pour un président aussi jeune, aussi peu expérimenté, à être notre représentant.
Elisabeth Pinault.
Oui, je crois que oui, c'est le danger d'une certaine arrogance qui pourrait être mal perçue à un moment donné. Vous voyez, quand Emmanuel Macron récite Pierre et le Loup la semaine dernière à l'Élysée, sans presse, avec simplement le porte-parole de l'Élysée, Bruno Roger Petit, qui dit que c'était merveilleux, tout le monde a applaudi et qu'il était formidable. Bon, ce genre de choses peut-être desservir à un moment donné si les résultats ne sont pas là. Évidemment, ça s'ajoute à une politique, évidemment, ce n'est pas qu'une image. Mais il y a quand même cette solitude du pouvoir et le danger d'une certaine impression d'être arrogant. Oui, je pense que ça pourrait le desservir si les choses vont mal en termes de politique.
En dehors de ça, pour François Hollande, il était beaucoup question de l'équation personnelle, et même si, vous allez me dire si je me trompe, mais le personnage pouvait être perçu comme étant sympathique, il ne paraissait pas adéquat que celui-ci soit président. Il y avait en quelque sorte beaucoup d'arguments personnels qui étaient invoqués pour dire que ça n'était pas un président populaire parce que l'homme n'était pas à sa place pour Emmanuel Macron. Est-ce que là, il y a eu une évolution sensible ?
Très clairement, Emmanuel Macron est perçu comme à sa place en tant que président de la République. Probablement la chose qu'il va devoir régler avec le temps, c'est de créer une forme d'empathie entre lui et les Français, qui n'existe pas. Parce que justement, cette très grande distance qu'il instaure fait qu'il n'y a pas de relation un peu charnelle comme il pouvait y avoir, par exemple, avec Jacques Chirac ou même avec François Mitterrand, qui avait beaucoup de hauteur, et notamment dans l'électorat de gauche. Il n'a pas ça, Emmanuel Macron. Donc il faudra probablement réussir à le créer. Et on voit bien, de toute façon, qu'il a commencé à bouger le curseur. Jusqu'en octobre, il n'a jamais parlé aux Français. De son élection au mois d'octobre, il n'a pas parlé français. Depuis,
il a fait une interview dans Le Point, mais c'était presse écrite.
Oui, c'était assez différent. Depuis, il a eu plusieurs fois des prises de parole télévisées. Et donc, on voit bien comment aussi il adapte son dispositif au temps.
Frédéric Saïs.
Là où il a aussi bénéficié de la... ce qu'on appelle la refondation politique ou la recomposition politique post-élection, c'est qu'il a réussi à faire le vide sur son aile gauche et sur son aile droite. Il a aspiré, on l'a vu, une partie de la droite avec Édouard Philippe qui en est le meilleur exemple. Le Parti Socialiste était déjà mal en point. Il a aspiré aussi quelques figures comme Olivier Dussopt, prometteuse.
Ancien du Parti Socialiste.
Exactement, qui est aujourd'hui secrétaire d'État auprès du ministre du Budget. Et du coup, les deux alternatives, entre guillemets, les trois avec Laurent Wauquiez, sont maintenant des partis qui sont soit à l'extrême droite comme le Front National, soit dans la contestation assez brutale comme Jean-Luc Mélenchon, soit Laurent Wauquiez. Et donc, il bénéficie de cette centralité qui fait que c'est soit moi, soit le chaos, pour le dire de manière un petit peu caricaturale, ce qui fait qu'il s'autorise beaucoup de choses aussi.
Élisabeth Pinault.
Et en même temps, pour reprendre une formule célèbre, précisément, il y a quand même cette petite musique entretenue par Laurent Wauquiez, par Marine Le Pen, d'un président coupé des Français, coupé des territoires, coupé des paysans, qui ne comprend pas les territoires. Et il y a quand même cette inquiétude aussi de ce peuple de gauche qui n'a plus de représentants au Parti Socialiste. Même la France Insoumise ne les représente pas vraiment. J'entendais la cérémonie des Césars vendredi soir. Voilà, il y a quand même eu des moment de fraternité avec les gens les plus pauvres, avec les migrants, avec les réfugiés. C'est une petite musique qu'on entend en permanence et qui est entretenue par l'opposition, qui est faible mais qui pourrait reprendre du poil de la bête au fil des mois.
Alors justement, ça c'est quelque chose d'intéressant ce que vous venez de dire, Élisabeth Pinault, puisque lorsqu'on apprécie la popularité d'un président sur la durée de son mandat, c'est ce que vous avez fait, Bruno Jambard, avec la présidence Hollande dans votre livre « Une présidence anormale ». Et alors on voit très bien que François Hollande a descendu son capital de popularité, un peu comme on descend un escalier. Il a perdu 6 points avec notamment la question donc de la taxe à 75% sur les hauts salaires, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à 14% qui semble être, aujourd'hui en tout cas, un plancher. Est-ce qu'Emmanuel Macron est en train de faire la même chose avec, par exemple, la question des migrants, qui est en train de contrarier une partie de son électorat à gauche, avec la question de la réforme de la SNCF ?
Pour le moment, clairement non. Parce que quand on regarde, il y a deux très fortes oppositions. Vous avez à peu près 80% des électeurs de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon qui n'apprécient pas ce qu'il fait. Donc là, on est clairement dans les blocs majeurs d'opposition. Vous avez à peu près les deux tiers des électeurs de Benoît Hamon qui sont dans la même situation. Et c'est là qu'il a beaucoup baissé. Mais finalement, à droite, il se maintient à peu près. Et autre élément important, on dit toujours Emmanuel Macron s'est coupé de la gauche depuis qu'il est élu. C'est pas tout à fait vrai, il s'est coupé de ceux qui ont voté pour les deux candidats qu'on qualifie de gauche à la présidentielle. Mais une partie de l'électorat de gauche l'avait rejoint dès le premier tour de la présidentielle. Et cet électorat de gauche qui a soutenu Emmanuel Macron dès le premier tour de la présidentielle, il continue à soutenir Emmanuel Macron. Donc par exemple, c'est intéressant la question des migrants, parce que pour l'instant, ça ne lui coûte pas la part de son électorat de gauche qu'il a acquis au premier tour de la présidentielle.
Mais comment ça se fait-il ? Parce que a priori, c'est plutôt quelque chose qui peut être mal ressenti dans des registres très différents, mais malgré tout commun à cette question-là. Il y avait par exemple la déchéance de nationalité qui, vous le rappelez Bruno Jambard, a énormément coûté à François Hollande.
Oui, alors ça s'explique par le fait que pour l'instant, ce sujet n'a pas été central dans le débat politique, probablement. Et donc, les revirements d'Emmanuel Macron, que ce soit sur la question de sécurité, avec le fait d'intégrer un certain nombre de dispositions de l'état d'urgence dans la loi classique ou sur les migrants, ne lui ont pas coûté parce que le débat n'a pas été très fortement organisé, en tout cas dans l'opinion autour de cela. Mais ça ne veut pas dire que dans un an, dans deux ans, ce sujet ne va pas revenir et que ça ne lui coûtera pas à ce moment-là.
Élisabeth Pinault, alors évidemment, Emmanuel Macron se moque de la popularité, puisque tous les présidents se moquent de leur popularité, ne regardent jamais les sondages, mais en vrai...
Officiellement.
Alors en vrai, qu'est-ce qui se passe ?
Évidemment qu'il regarde, il regarde tous. Mais il a eu cette phrase intéressante, je crois que c'était à Châlons en Champagne la semaine dernière, Emmanuel Macron, il a dit « Des gens toute leur vie ont été obsédés par les sondages, il n'en reste rien. »
Ah, des noms.
À mon avis, François Hollande est visé. Voilà, ça me paraît assez clair, parce que je pense que la présidence précédente, ils étaient quand même très un peu obsédés par les sondages, oui. Mais bon, et bien sûr qu'ils regardent...
Plus que cette présidence-là
Cette présidence dit qu'ils s'en moquent, qu'ils s'en fichent complètement. Donc d'un extrême
Frédéric
à l'autre.
Seitz me dira si je me trompe, j'ai l'impression qu'ils disent tous qu'ils s'en moquent.
C'est comme à la radio, officiellement on se fiche des audiences, en réalité on les regarde quand même.
Voilà, exactement. Et par exemple, un sondage qui dit que les deux tiers de Français sont favorables à la disparition du statut des cheminots, à mon avis, l'exécutif a bien compris le message.
Oui, on peut se demander d'ailleurs dans quelle mesure ensuite il n'y aura pas une critique des sondages à faire, je le dis d'ailleurs face à Bruno Jean-Barre.
Les sondages se sont trompés, hein, c'est arrivé, mais pas seulement. Voilà, c'est quand même un travail scientifique de mesure de l'opinion. On ne peut pas totalement l'ignorer, mais on ne peut pas non plus être obsédé par cela. Et c'est ça qu'a voulu dire Emmanuel Macron, je présume.
Bruno Jean-Barre, ce que l'on apprend également dans votre livre au sujet donc de cette présidence anormale, il y a beaucoup d'études quantitatives et qualitatives qui sont faites par les présidents, par les partis politiques, par... Vous savez si Emmanuel Macron en fait des études qualitatives ?
Écoutez, oui, probablement, et je pense même qu'il y a un paradoxe, c'est que, effectivement, François Hollande avait donné le sentiment d'avoir souvent le regard très fortement placé sur ses études d'opinion, mais en faisait assez peu, notamment au début de son mandat. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, je pense qu'il y en a beaucoup plus et que c'est un outil de nouveau de pilotage, comme ça l'a toujours été dans la Ve République pour tous les présidents.
Oui, François Mitterrand en faisait.
Voilà, Mitterrand, Chirac, Sarkozy évidemment. Et c'est redevenu un outil de pilotage, un outil qui aide à la décision et à la présentation de l'action.
Alors il faut juste présenter en deux mots, on prend un groupe d'individus, 10 à 15 personnes, on les fait parler, on les regarde derrière une vitre sans teint et puis on analyse leurs propos. Frédéric Saint.
Oui, François Hollande avait aussi pris cette décision, là encore par contraste par rapport à son prédécesseur. Nicolas Sarkozy était boulimique de sondage. Il y avait même eu une affaire judiciaire autour d'une commande de sondage public. Et donc François Hollande, fidèle à sa stratégie de rupture, avec moi le changement c'est maintenant, avait dit désormais il n'y aura plus de sondage à l'Élysée. Il y en aura en tout cas beaucoup moins. Et il y avait évidemment l'observation des sondages qui étaient commandés par la presse, qui étaient disséqués, mais pas de commande publique, en tout cas officiellement, de la part de l'Élysée. Là où Emmanuel Macron a aussi devant lui un avantage certain, on parlait des différentes réformes qu'il attend, c'est qu'il y a une partie de l'opinion publique, alors il y a une partie de l'opinion publique qui ne croit plus en la politique, et à la rigueur, celle-ci, elle ne compte plus, elle ne va plus voter, on l'a vu aux élections partielles. Il y a une autre partie de l'opinion publique qui est favorable aux réformes qui viennent, la réforme de la SNCF, les sondages en tout cas sur le statut des cheminots laissent entendre qu'une majorité des sondés en tout cas sont pour. Y compris la loi sur l'asile et l'immigration, 50% de la population la trouve trop laxiste. Donc là, ça vient complètement à rebours de toute la petite musique qui est faite par certains partis politiques, comme quoi ce serait une réincarnation des régimes très autoritaires. Voilà, ce n'est pas ce que pensent beaucoup de gens. Et puis il y a la réforme constitutionnelle qui arrive, dont on n'a pas parlé, mais qui arrive au mois de juin, avec notamment la baisse d'un tiers du nombre de parlementaires. Et là, pour le coup, il y aura très peu de gens, quand on fera des sondages, pour défendre au contraire l'augmentation du nombre de parlementaires.
Sauf les parlementaires, peut-être.
Et encore.
Elisabeth Pinault, est-ce que vous avez l'impression, pour suivre donc Emmanuel Macron et l'Élysée au jour le jour, avez-vous l'impression que les journalistes sont encore amoureux d'Emmanuel Macron ? On a beaucoup accusé la presse d'avoir facilité l'élection, on a dit voilà, les journalistes sont un amouré vis-à-vis de cet homme, il serait temps qu'il redescende sur terre ou alors qu'il redevienne honnête, qu'en pensez-vous ?
Je pense que les choses ont changé, oui. Je pense que la montée, comment dire, d'Emmanuel Macron, son ascension vers le pouvoir a été suivie de près. Ben, c'est évidemment un phénomène extrêmement intéressant. Alors de là être enamouré, je dirais pas jusque là en tant que journaliste.
Non, mais que les journalistes n'étaient pas assez critiques.
Oui, je pense que c'est une critique qui a été faite, donc il y avait forcément sans doute une part de vrai. Il faut voir le nombre de une qu'a fait Emmanuel Macron. Voilà, c'était impressionnant. Et c'est sûr qu'il y a une rupture depuis que Emmanuel Macron est au pouvoir.
Il est devenu méchant avec vous, avec nous ?
Ah non, c'est heureusement que c'est plus compliqué que ça, enfin j'espère. Ça reste de toute façon une présidence assez exceptionnelle et extrêmement intéressante à suivre. Donc de toute façon, faire la une d'Emmanuel Macron, c'est pas forcément faire son éloge, déjà. Je dirais que les fans d'Emmanuel Macron sont maintenant hors de nos frontières. Enfin vraiment, il y a un intérêt et vraiment de la part des pays étrangers qui est assez impressionnant. La France est devenue une espèce de centre du monde grâce à Emmanuel Macron, et parfois les papiers de nos confrères étrangers sont devenus ceux qui étaient ceux des Français l'an dernier.
C'est important pour les Français, Bruno Jean-Bart, que ce président ait a priori une bonne image à l'étranger.
Oui, je crois que c'est une des dimensions de son succès jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il a rétabli un peu l'image de la France et du coup l'optimisme, un peu la fierté que l'on a tous de se dire que la France est de nouveau un pays qui compte. Maintenant, la difficulté qu'il va avoir, mais c'est de
pourtant
vraiment...
Pourtant, François Hollande ne faisait pas honte aux Français, ça n'était pas Berlusconi, je ne veux pas prononcer de gros mots, mais...
Non, il ne faisait pas honte, mais il ne rendait pas fier. C'est toujours, les gens sont extrêmement durs, vis-à-vis des hommes politiques. C'est souvent très très injuste. Mais il n'y avait pas ce sentiment d'avoir quelqu'un qui était regardé très positivement à l'étranger. Donc Emmanuel Macron a ça. Simplement, ça, c'est quelque chose qui comptera assez peu au final dans son bilan.
Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait chez Emmanuel Macron, Bruno Jean-Bart, un populisme des élites, une expression étonnante. Mais lorsque vous analysez, Bruno Jean-Bart, la présidence Hollande, vous montrez finalement que un certain nombre de mesures qui devaient le servir dans des populations ne l'ont pas servi. Alors par exemple, il y a un chiffre très intéressant que vous donnez. Vous dites que finalement, François Hollande était moins populaire chez les couples gays mariés que chez les couples gays non mariés. Alors qu'on se dit que finalement, eh bien, il aurait dû être populaire parmi ceux auxquels il avait permis de se marier. Est-ce que le fait de faire moins de clientélisme, par exemple de taper sur les retraités comme le fait Emmanuel Macron par le biais de la CSG, qui peut paraître étonnant, est-ce que ça n'est pas finalement une stratégie qui est aujourd'hui plus payante ?
Ce qui est certain, c'est que François Hollande, dans les mesures qu'il a prises et qui auraient pu lui profiter, n'a jamais suffisamment assumé ses mesures et son action pour en bénéficier à plein. Il a toujours soit fait un pas en arrière après avoir pris un certain nombre de décisions sur le plan économique, soit effectivement, il a, par exemple, sur le mariage gay, il avait déclaré devant les maires qu'il y aurait ce droit de retrait des maires qui pourraient ne pas marier si, pour des raisons de conscience, s'ils le voulaient. Donc on voit bien qu'il n'avait pas profité à fond pour ces raisons-là de ça. Emmanuel Macron fait l'inverse. Il assume toujours très fortement tout ce qu'il décide.
Elisabeth Pinault, un mot de conclusion sur ces premiers mois de présidence.
Bah, je dirais que c'est une présidence assumée, extrêmement active, et c'est pas fini. On va tout droit vers une séance exceptionnelle du Parlement, une session exceptionnelle du Parlement au mois de juillet pour faire passer tous les textes en préparation et en devenir. On va voir ce que ça donne.